capitaine, mon capitaine.
Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez? Asseyez-vous. Allons, assis. Dernier avertissement, Anderson.
Oh, capitaine, mon capitaine.
Monsieur Overstreet, je vous ordonne de vous asseoir. Assis. Tous, je vous ordonne de vous asseoir.
Libre Radio, la station debout. www.libradio.org.
Bonjour à toi, Lamia Eslemlali, tu es donc présidente de Sea Shepherd France et Suisse Romande.
Bonjour.
Bonjour, et donc il faut dire que Sea Shepherd est une organisation, en fait dont le nom complet est Sea Shepherd Conservation Society, qui est une organisation internationale fondée en 1977. 77, voilà. Alors, depuis quand la section française et la branche romande existent-elles?
Alors, la section française existe depuis novembre 2006 et la section romande a été ouverte 3 ans plus tard.
D'accord, en 2009 environ. Ok.
À peu près, ouais.
Ouais, très bien. Et alors, dis-moi, donc, c'est une organisation, si on consulte le site internet, qui se dit d'être, dont les buts, pardon, sont la conservation de la faune et de la flore marine, et dont la mission est de mettre un terme à la destruction des écosystèmes marins et au massacre des espèces dans le but de conserver et de protéger la biodiversité des océans du monde entier. Tu confirmes ?
C'est tout à fait ça. On pourrait aussi le présenter comme une ONG anti-braconnage, puisque c'est vraiment notre cœur de métier, c'est la lutte contre la pêche illégale. Et on s'est ensuite développé dans d'autres secteurs comme la sensibilisation, la lutte contre la pollution, des études scientifiques avec des scientifiques embarqués sur certains des navires. Mais vraiment, l'origine de Sea Shepherd, c'était pour lutter contre la pêche illégale.
Très bien. Et alors, ce qu'on peut lire également sur le site internet, c'est que les stratégies qui sont mises en place, ce sont celles de l'action directe. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce propos ?
Comme je le disais, en fait, comme on se focalise essentiellement sur la pêche illégale, en général, c'est ce qui est illégal, ça l'est devenu au terme de nombreuses années de négociations, de lobbying, de sensibilisation. Donc nous, on estime qu'à partir du moment où des actions de pêche sont illégales et des espèces sont protégées, il ne s'agit plus de protester, il s'agit de faire appliquer les lois. Donc c'est là qu'on en vient à l'action directe. On va dénoncer certaines actions, certaines opérations de pêche en mer qui sont légales mais immorales. Mais encore une fois, notre cœur de métier, c'est d'agir là où on peut faire la différence sur le terrain contre le braconnage et donc via l'action directe. Donc en gros, empêcher le braconnage et pas se contenter de le dénoncer.
Très bien. Alors on va évidemment revenir sur toutes les campagnes que mène Sea Shepherd sur le globe entier, puisque c'est, si j'ai bien compris, une ONG qui intervient partout dans le monde.
Oui, on fait des missions partout. Je crois qu'on est sur tous les océans du monde, notamment beaucoup en Antarctique, mais aujourd'hui aussi en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, en Europe. On a une flotte de 9 navires. Mmh. Plus une dizaine de petits bateaux. Donc voilà. Et encore, on n'arrive malheureusement pas à couvrir toutes les zones où il y a des besoins parce qu'en fait, on a des alertes qui viennent de partout et une flotte de 9 navires, ça peut sembler beaucoup, mais finalement, face à l'ampleur de la tâche, c'est pas suffisant.
D'accord. Alors, on va revenir là-dessus. Effectivement, après, dans la deuxième partie de l'entretien, on parlera très techniquement des campagnes actuelles, enfin de certaines d'entre elles en tout cas. Mais avant cela, juste pour fixer un petit peu les valeurs de Sea Shepherd, j'ai envie de m'inspirer, de t'interroger à propos du logo. C'est vrai que le logo est assez reconnaissable, ce drapeau noir avec, on a une crosse de berger, le trident de Neptune, il y a une tête de mort hein, avec en forme de yin et yang, une baleine et un dauphin qui sont inscrits dans ce crâne. Alors on peut dire que ce logo, il résume bien les valeurs et les modalités réunies dans Sea Shepherd. Qu'en dis-tu ?
Bah, c'est ça, en fait, quand on a commencé à mener des actions coup de poing, nos détracteurs, qui sont eux des braconniers, ont commencé à nous traiter de pirates. Et bon, Paul Watson, qui est le fondateur de Sea Shepherd et qui est l'esprit taquin, s'est dit, bon bah très bien, puisque vous voulez qu'on soit des pirates, on le sera. Ça ne nous pose pas de soucis, de toute façon, il n'y a que des pirates qui arrivent à arrêter des pirates. Et il prend comme exemple Henry Morgan, qui était un pirate et qui a mis un terme à la piraterie dans les Caraïbes, alors que la marine britannique n'y arrivait pas, mais aussi parce qu'il y avait des histoires de corruption qui étaient liées à tout ça. Et c'est d'ailleurs un cas de figure qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc cette imagerie du pirate, elle nous va bien, dès lors que nous, on est des pirates qui luttons pour la vie. Et on s'oppose à des pirates qui la détruisent. Et voilà, c'est un visuel qui marque, effectivement. Mmh. On a remplacé les os humains par le trident de Neptune et le bâton de berger, puisque Sea Shepherd, ça veut dire berger de la mer. Mmh. Donc, c'est un peu les bergers des troupeaux marins. Et puis, voilà, c'est une image qui plaît beaucoup aux enfants aussi. C'est devenu notre identité, elle colle vraiment bien à nos actions.
Ouais. Alors justement, tu as cité le fondateur, hein, Paul Watson, qui a créé en 1977 cette organisation-là. De quelle manière est-ce qu'elle a surgi ? Est-ce que tu pourrais nous, en quelques mots, nous dire, parce qu'il me semble qu'il y a eu une scission avec Greenpeace au départ, c'est ça ?
Oui, effectivement, Sea Shepherd est né en quelque sorte de la scission de Paul avec Greenpeace, puisque en fait, il a été évincé du bureau de la direction de Greenpeace parce qu'il a été accusé d'être trop violent. Ça c'était lié à un épisode sur la chasse des bébés phoques en 1977. Donc cette fameuse année où Brigitte Bardot est venue sur la banquise pour dénoncer la chasse aux bébés phoques. Et en fait, Paul a saisi le gourdin d'un chasseur de phoques qui s'apprêtait à fracasser le crâne d'un bébé, et il a jeté ce gourdin à l'eau. Ça a été considéré comme un acte de violence et de destruction de propriété privée par Greenpeace, qu'il a du coup évincé. Donc pour Paul, en fait, dès le départ, l'intérêt de Greenpeace, c'était, parce qu'il est un des cofondateurs, hein, il est le plus jeune cofondateur de Greenpeace, l'objectif était pas simplement de témoigner des massacres, mais d'intervenir pour les empêcher. Donc il a fondé Sea Shepherd pour effectivement faire de l'action directe et être moins timoré. Il se refusait à se contenter de photographier les animaux de ferme.
Ouais. Depuis, est-ce que des actions conjointes, des fois en cours, ou en tout cas des informations sont partagées, ou est-ce qu'on trouve quand même des solidarités dans le monde associatif en différents groupes tels que Sea Shepherd et Greenpeace?
Alors bah, nous, ça nous arrive de travailler avec des petites associations, mais en général, c'est des petites. Greenpeace, on leur a tendu la main à plusieurs reprises, hein, pour qu'ils travaillent avec nous, notamment en Antarctique, sur la pêche illégale du thon rouge en Méditerranée. Ils ont toujours refusé de nous donner les informations dont ils pouvaient bénéficier par rapport notamment à la position des flottes de chasse baleinière en Antarctique. Nous, on leur a toujours relayé cette position à l'époque où ils allaient encore en Antarctique, hein, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant, parce qu'on partait du principe que plus on était nombreux sur la zone et mieux c'était, mais eux considéraient que Sea Shepherd est une organisation trop violente, et donc ils refusaient de communiquer avec nous.
Ouais, d'accord. C'est évidemment regrettable, mais bon, ben voilà. Alors effectivement, là, tu dis, tu parles du mot violence. C'est vrai qu'on a pu entendre moult épithètes, moult adjectifs concernant Sea Shepherd. Alors effectivement, tu en as cité un, les pirates. Alors moi, j'ai entendu pirate héroïque, j'ai entendu héros des mers et des océans, j'ai aussi entendu éco-terroriste. Vous avez une manière de vous autodéterminer par rapport à ça ?
Nous, on est entre guillemets des bons pirates. Mmh. On n'est pas violent. La violence, je pense qu'il faut la définir. Qu'est-ce qui est violent ? Est-ce que c'est de détruire la propriété privée d'un braconnier qui tue illégalement des espèces protégées ? Ou est-ce que c'est de laisser faire, finalement ? Le laisser faire, la non-assistance à espèces en danger, c'est une forme de violence. Nous, on n'a jamais blessé personne en 40 ans d'action. On n'est jamais intervenu contre une opération légale, mais toujours contre des opérations illégales. Donc voilà, en fait, je pense que le terme de violence, il nous ramène à une hiérarchie des valeurs. Qu'est-ce qui a plus de valeur ? Est-ce que c'est une baleine ou est-ce que c'est le harpon qui va servir à la tuer ? Voilà, nous on place la vie au-dessus de la propriété privée, d'autant plus quand c'est une arme qui tue illégalement.
Très bien. Voilà. Et effectivement, sur votre site internet, ce qui a par ailleurs de très intéressant, c'est qu'il y a donc trois rubriques. Une qui met en place les lois et chartes qui guident les opérations. Il y a celle du mandat et de la charte mondiale pour la nature. Et il y a également le pacte de non-discrimination pour connaître les motivations. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ça sur la page du site internet et ce qui permet aux personnes effectivement de immédiatement comprendre les valeurs qui vous mobilisent. Est-ce que des fois tu penses que vous êtes victime d'une image un petit peu comme ça, disons biaisée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peut-être du fait de ce logo ou des choses comme ça. Vous êtes de temps en temps, tu sens victime un petit peu de cette image-là?
Je pense que les critiques qui reviennent sont toujours les mêmes. On a un de nos bateaux qui s'appelle le Brigitte Bardot, par exemple. Donc ça, on nous le reproche parce que c'est le propos que peut tenir Brigitte Bardot politiquement.
Bien sûr.
Maintenant, le lien qu'il peut y avoir entre T. Shepherd et Brigitte Bardot, il remonte à 1977, quand elle est venue sur la banquise et que, grâce à sa présence, la chasse aux phoques a été interdite pendant 10 ans. Et c'est tout son combat pour les animaux qui nous lie. Après, les questions d'ordre politique, de politique humaine, nous, on essaye de complètement s'en dissocier parce qu'on n'a pas le temps de tous s'entendre surtout pour travailler ensemble. Je pense que si Brigitte Bardot faisait des dons à Action contre la faim ou je ne sais quelle organisation pour nourrir des petits-enfants en Afrique, on reprocherait sans doute moins à cette organisation d'accepter son aide.
Simplement,
nous on défend l'océan, on défend des animaux et comme la plupart des gens ont quand même une vision très anthropocentrique du monde, donc ils placent vraiment l'homme au-dessus de tout, ils ne conçoivent pas qu'à cause de différents politiques, on puisse s'allier avec quelqu'un qui a largement fait ses preuves et qui a tout donné pour les animaux.
Tout à fait.
Moi, à titre personnel, ça me touche particulièrement parce que, je m'appelle Lamia Estemlali, je suis d'origine marocaine, mes deux parents sont marocains. Le racisme, j'ai pu y être confrontée personnellement et dans ma famille. Je sais ce que c'est le racisme et je ne pense pas que qu'il faille mettre ça dans la balance. Et puis surtout, c'est complexe. Le personnage de Brigitte Bardot, il est complexe. Je pense qu'on adore la détester. Moi, je l'ai rencontrée à 3 reprises. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai déjà vu des gens racistes. J'ai vu la haine du racisme. Enfin, je ne l'ai pas du tout ressenti chez elle. Je pense qu'elle a des préjugés. Ça, c'est évident. Mais il n'y a pas de haine fasciste comme ce dont peuvent l'accuser certaines personnes qui mélangent tout et qui souvent, très souvent, n'ont eux-mêmes jamais été confrontés au racisme.
Ouais. Donc là,
les plus virulents contre Brigitte Bardot, ce sont des gens qui n'ont eux-mêmes jamais été confrontés au racisme.
Mmh. Alors effectivement, là, c'est la question du financement qui surgit, c'est-à-dire que la Fondation Brigitte Bardot, si j'ai bien compris, co-finance en tout cas le bateau qui porte son nom et différentes.
Alors, oui.
C'est ça?
Oui, non, en fait, ils ont aidé à l'achat du bateau. Il faut savoir que ce bateau, il nous coûte autant que son prix tous les 2 ou 3 ans. Donc, ils ont aidé à la base. Et effectivement, Paul Watson a aussi voulu rendre hommage à Brigitte pour son combat pour les animaux. Et c'est ça qui a motivé le fait de baptiser le bateau d'après son nom.
Je comprends. Et sinon, si on voulait rapidement faire un détour sur justement cette question du financement, comment est-ce que Sea Shepherd arrive à financer justement toute cette flotte ? Et toutes ces activités, bah, toutes ces campagnes.
On n'est absolument pas subventionné, donc on ne fait pas de demande de subvention non plus, parce qu'on veut rester complètement indépendant et libre de nos choix de mission. Souvent, les subventions d'État, elles sont assorties à des conditions plus ou moins officielles. Mais voilà, on ne veut pas être tributaire de financement public. Donc c'est Monsieur et Madame tout le monde qui financent les bateaux de T-Shepherd. On ne vit que de dons.
D'accord. Donc d'ores et déjà, on peut lancer cet appel-là. Vous avez toujours constamment besoin de dons pour pouvoir opérer ces actions.
On a vraiment toujours besoin de dons, et puis surtout les gens ont une image de T-Shepherd qui est biaisée parce que c'est médiatisé, parce qu'on a des bateaux, donc ça donne l'impression qu'on est une machine de guerre financière. Or, c'est absolument pas le cas. Si on arrive à joindre les deux bouts, c'est parce qu'on travaille avec 95% de bénévoles et qu'on fait des économies sur tout. Notre budget international, il est de 11 millions d'euros. Alors, juste pour vous donner un ordre de comparaison, Greenpeace, c'est 350 millions d'euros.
Ah ouais, effectivement, c'est démesuré. C'est
donc,
incomparable.
Voilà. C'est incomparable. Et on est encore aujourd'hui, malheureusement, dans un cas de figure où on est obligé de faire des sacrifices de campagne parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour financer les opérations, le carburant, les réparations des bateaux. Donc on fait le maximum, mais ouais. on est limité par les moyens financiers.
Voilà, alors justement, si tu es d'accord, j'ai quelques questions qui concernent ça, puis ensuite on viendra typiquement au projet Mare Nostrum 3 dont on voulait parler un petit peu, parce qu'également nous avons vu qu'il y a des besoins il y a un appel qui a été lancé justement par Sea Shepherd pour justement recouvrer ces besoins, et notamment ces besoins alimentaires pour l'équipage. Alors, ouais. Mais avant ça, justement, alors la question qui vient là maintenant, c'est quel est le ratio, tu as déjà répondu un petit peu à ça, mais quel est le ratio entre les bénévoles et les professionnels au sein de Sea Shepherd?
C'est ça, globalement, c'est à peu près 95%. Donc, sur les bateaux, les capitaines, chefs mécanos sont rémunérés, mais tout le reste est bénévole. Et à terre, il y a quelques directeurs nationaux qui sont rémunérés. Quelques postes administratifs, mais voilà, c'est une poignée, hein. On est dans un ratio de 95%, 5%.
Ça veut dire que vraiment la très grande majorité des personnes, eh bien, le font à titre gracieux, à titre bénévole.
L'écrasante majorité, ce sont des personnes qui sont bénévoles. Mmh. Et puis pour les personnes qui sont salariées, très souvent, elles ont été bénévoles plusieurs années avant d'être payées.
D'accord. Dis-moi, comment est-ce qu'on identifie les situations qui seront ensuite potentiellement des lieux d'intervention? Est-ce qu'on a un plan de stratégie? Est-ce qu'on se dit, voilà, il y a l'urgence écologique, évidemment, qui joue? Il y a les possibilités d'intervention dans ce lieu-là, où il y a des lieux où vraiment c'est impossible d'y intervenir pour plein de raisons différentes. Voilà, comment est-ce qu'on identifie les lieux qui vont susciter des campagnes dédiées?
Alors, on a beaucoup de remontées d'informations par des gens qui sont sur place et qui voient chez eux... des actions illégales, la destruction de l'environnement marin ou la destruction d'espèces protégées, et qui nous alertent sur la question. Ensuite, effectivement, il y a tout un travail d'enquête pour voir dans quelle mesure on peut intervenir. En général, ça va assez vite, hein. On n'est pas du genre à faire 150 réunions avant D'accord. de décider de bouger une oreille. Hein. On essaie d'être très réactif parce que la situation est urgente. Même si il y a une phase d'étude préalable pour savoir exactement où on met les pieds, comment on peut agir et comment on peut le faire de la manière la plus efficace possible. Et puis après, il y a une budgétisation, parce qu'il faut voir aussi si financièrement on est en mesure d'intervenir ou pas. Là, pour vous donner un exemple très concret, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à Mayotte, c'est quelqu'un qui m'a alerté sur les braconnages de tortues sur l'île. Donc on a échangé pendant 2 ou 3 mois, et puis on a mis en place une équipe pour patrouiller sur les plages. Et en étant sur place à Mayotte, on se rend compte que le braconnage des tortues, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est une problématique environnementale catastrophique à Mayotte, avec un enjeu très important, puisque c'est un des plus beaux et des plus grands lagons du monde qui est braconné quotidiennement, et que la France ne s'en occupe absolument pas. Donc c'est un exemple concret d'un enjeu sur lequel on va travailler sur le long terme, et qui a démarré du fait que quelqu'un nous a alerté, tout simplement. Ouais.
Alors voilà, donc vous êtes alerté comme ça, vous êtes sensible à ça, et vous mettez en place une stratégie. Mais est-ce que c'est... Après, comment ça se passe? Parce que typiquement, tu cites l'exemple concret de Mayotte, bah, c'est des eaux territoriales, vous pénétrez dessus, est-ce qu'on négocie quand même? Est-ce qu'on a un rapport avec, du coup, l'État, des délégués, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est l'action directe qui prime, on y va, et puis on empêche, on fait des choses?
Alors, ça dépend. Dans l'idéal, ce qu'on aime bien, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est quand on est en eau territoriale, c'est avoir des partenariats avec les gouvernements concernés. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment au Gabon pour la deuxième année consécutive, ce qu'on a fait au Libéria, ce qu'on fait en Équateur pour le parc national des Galapagos depuis maintenant 17 ans. Donc, ça, c'est bien quand on arrive à faire ça. Maintenant, Mayotte, là, c'est, oui, effectivement, c'est les eaux territoriales françaises, mais c'est le chaos absolu. Mais absolu, c'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a un gros problème aussi sociétal parce que Mayotte est une terre française dans l'archipel des Comores où la situation politique est explosive et du coup il y a des vagues de migrants qui arrivent en masse sur Mayotte pour être français. Avec aussi des catastrophes humanitaires, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent noyés en essayant de rejoindre Mayotte. On l'appelle le Lampedusa de l'océan Indien. À côté de ça, il y a une catastrophe écologique qui est liée à tout ça, puisque en fait l'île est littéralement en train d'être dévorée vivante. La population est passée de 150 000 à 450 000 personnes en 10 ans. Et surtout, les gens qui se retrouvent à Mayotte parce qu'ils espéraient une vie meilleure se retrouvent extrêmement déçus quand ils arrivent, puisqu'ils s'entassent dans des bidonvilles, dans des conditions qui sont catastrophiques. Et la pression pour les Mahorais, elle est énorme. C'est-à-dire que tout le monde vit dans une insécurité grandissante du fait aussi de la densité au kilomètre carré qui est plus de 5 fois supérieure à la densité en métropole, par exemple. Donc, ça pour dire, je ne sais plus pourquoi je vais rentrer dans ce détail-là.
La question, c'était de dire de quelle manière est-ce qu'on transgresse justement ces limites d'eau territoriale qu'on va au contact.
Effectivement. Donc, dans ce cas-là, en fait, nous, si vous voulez, on ne demande pas mieux que de travailler en partenariat avec les autorités pour défendre notamment le lagon de Mayotte. Mais dans un cas... aussi explosif et aussi chaotique que celui-là, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc, on n'a pas demandé d'autorisation pour patrouiller sur les plages et empêcher les tortues qui viennent pondre de se faire découper à la machette.
Ça implique qu'il faut également vous préserver, vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, si on tombe sur des braconniers, j'imagine que eux, leurs motivations, elles sont claires, elles sont financières, mais elles peuvent être accompagnées de violences ou je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des fois ce risque-là?
Ouais. Bien sûr. Puis on a diffusé une vidéo puisque en tout début de campagne, on a été caillassés. Mais quand je dis caillassés, c'est pas des cailloux, hein, c'est presque des parpaings qui nous ont envoyés. Puis ils ont brûlé notre véhicule. Donc il y a une vraie violence du côté braconnier. Il n'y a pas les moyens suffisants sur place pour protéger les tortues, même pas pour protéger les gens. Donc les tortues et les animaux encore moins. Donc il y a un risque qui est évident. Après, c'est pas des campagnes qui sont pour tout le monde, ça c'est sûr. Nous on est très 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 clair sur la notion de risque qui peut accompagner nos missions parce que le trafic de viande de tortue par exemple c'est un trafic qui est énorme. La viande de tortue à Mayotte, elle se vend aujourd'hui entre 30 et 45 euros le kilo. Une tortue, elle fait entre 150 et 200 kilos, donc c'est plusieurs milliers d'euros qui se baladent sur la plage.
Et alors effectivement, est-ce que tu l'as dit un petit peu en filigrane, mais vous arrivez quand même à trouver des partenaires locaux justement de la société civile, des associations locales, si effectivement les institutions font défaut, est-ce que vous trouvez quand même des soutiens parmi la population?
Alors, on aime beaucoup travailler avec la population locale parce que vraiment, c'est en l'impliquant qu'on arrive à être efficace. D'ailleurs, là pour Mayotte, on est arrivé à l'appel de locaux hein, qui nous ont euh, qui nous ont appelés à l'aide. Donc on essaye de nouer des liens avec les locaux qui ont envie que les choses changent, qui veulent sauver leur île. Après, pour ce qui est des associations locales, bah, les associations, c'est comme les gens, il y a à boire, il y a à manger. Donc il y en a qui sont très bien, qui font de bonnes actions et qui ont les motivations saines. Et puis il y en a d'autres pour lesquels c'est plus discutable. Mmh. Et dans ce cas-là, on a tendance à plutôt garder nos distances.
D'accord. Alors effectivement, on a vu, il y a de nombreuses, et on n'aura pas évidemment le temps, en tout cas aujourd'hui, de dénoncer l'ensemble des campagnes que vous menez, parce qu'elles sont... Elles sont énormes, il y en a de très nombreuses. Mais alors concernant pour nos territoires ici, locaux, en Suisse romande en tout cas, il y a cette campagne sur le lac Léman que vous avez menée à partir de 2016. Et là, effectivement, alors vous la faites, vous l'opérez conjointement du Centre ornithologique de réadaptation de Gento à Genève pour préserver la vie faune lémanique. Donc ça, c'est un, on peut dire un exemple de, comment dire,
d'action locale
et de partenariat.
Oui, ouais. tout à fait. Donc, on se connaît depuis maintenant un petit moment. Il y a un rapport de confiance qui s'est établi avec, avec le corps et avec, avec son dirigeant. Donc, nous, on met à disposition des bénévoles qui font des patrouilles, qui aident aux soins des animaux. On communique sur le projet et voilà, c'est une sorte de, c'est un exemple de partenariat symbiotique où on est content de pouvoir prêter main forte à un centre de soins qui a du mal à joindre les deux bouts.
Tout à fait. Et alors là, qu'en est-il de cette campagne? Elle a commencé en 2016 et elle a cours encore maintenant.
Alors oui, c'est une campagne en fait qu'on fait à l'année. Alors là, on est en plein dans la période où où il y a vraiment beaucoup beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup de d'oiseaux qui sont retrouvés en détresse. Mais c'est une campagne qu'on pérennise en fait. Donc il y a pas vraiment de saison. Et on a des bénévoles qui viennent forcément de Suisse et aussi de France. Enfin, on a ouvert à notre réseau international.
D'accord. Et alors là, on s'aperçoit. Donc là, on parle d'oiseaux, on parle de lacs, on parle de rivières. Ça veut dire que des océans et des mers, là où on attend un petit peu, je veux dire, avec nos a priori, Sea Shepherd, en fait, ça n'est pas que là que vous agissez. Il y a des enjeux également ailleurs, dans les lacs, dans les rivières et dans ces faunes-là.
Bien sûr, tout est lié. Hein. C'est vrai qu'on. Je crois bien d'ailleurs que c'est la première campagne en eau douce. Hein. Oui. Mais ça sera peut-être pas la seule ni la dernière, puisque tout est lié. Donc on est très content de pouvoir agir à ce niveau-là. Et puis ça permet aussi à des gens qui sont motivés, qui ont envie d'aider, mais qui peuvent pas forcément partir 4 ou 5 mois en Antarctique, d'aider, de contribuer près de chez eux.
Tout à fait. Parce que j'imagine, je voulais poser cette question-là un petit peu avant, mais une campagne en général, quand on part dans un océan, quand on traverse une mer, comment se passe-t-il avec l'équipage? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des tournus? Est-ce qu'on part effectivement pour 6 mois? On sait que c'est 6 mois pendant lesquels on est loin. Tu vois?
Ça dépend beaucoup des campagnes, en fait. Les campagnes antarctiques, c'est les plus longues. Toute la saison, rien que la saison de chasse, elle fait 4 mois. Et puis après, il y a aussi la période avant et puis la période de retour. Les campagnes en Afrique de l'Ouest, elles sont relativement longues aussi. Mais comme c'est des campagnes côtières, le bateau rentre à quai assez régulièrement. Du coup, on peut faire un turnover au niveau des équipes. Donc, c'est moins exigeant en termes de temps, de disponibilité. Mais je dirais que quand même, en tout cas pour une première mission, il faut compter minimum 3 mois parce que les candidatures d'un mois sont moins pertinentes parce que il faut qu'on forme les gens, qu'ils trouvent leur repère sur le bateau, qu'ils comprennent la façon de travailler. Et c'est vrai que s'il reste qu'un mois, en fait, ils ont à peine le temps d'être à l'aise avec tout ça, que c'est déjà l'heure de rentrer à la maison. Donc pour nous, c'est beaucoup moins, moins intéressant.
Voilà.
Après, quand ce sont des vétérans qui ont déjà fait des campagnes, qui connaissent déjà les bateaux et la façon de travailler, effectivement, ils peuvent rejoindre sur des sessions plus courtes parce qu'il n'y a pas tout ce temps de formation qui est à prévoir.
Tout à fait. Alors, comme je sais que ton temps est compté, je vais aller le plus vite possible pour parler encore de Mare Nostrum 3 qui nous concerne, puisqu'en termes de date, c'est la prochaine échéance, en tout cas ici dans nos contrées, ici en Suisse romande. Mais juste avant ça, je voulais encore te demander, alors effectivement, on a compris qu'il y a tout ce travail sur les bateaux, dans les atours des bateaux, ce travail côtier et tout et tout. Et il y a ce travail au travers des lacs, des rivières, etc. Mais il y a aussi ce travail à terre, puisque de plus en plus, eh bien, effectivement, par le biais de stands, par le biais de soirées d'information, bah, Sea Shepherd essaye d'agir sur la terre également.
Oui, alors le travail à terre, il est essentiel, il est vraiment fondamental. Je pense que on pourrait pas partir en mer autant qu'on le fait s'il y avait pas une équipe de bénévoles à terre qui communique sur nos actions, qui nous aide à lever des fonds, qui organise des événements. Tout ça c'est vraiment fondamental. C'est moins spectaculaire que les actions de terrain. Mais encore une fois, il n'y aurait pas de terrain, ou il y en aurait beaucoup moins sans tout ce travail qui est fait par des bénévoles à terre à l'année.
Voilà. Et alors là, effectivement, ben, du coup, là aussi, on peut lancer un appel aux personnes qui ont envie de rejoindre Sea Shepherd, je pense, parce que du coup, là, il y a moins de contraintes physiques et de contraintes de disponibilité quand on est à terre.
Ah bah oui, tout à fait. C'est pas la même nature d'engagement, ouais. Puisque c'est ponctuel et c'est de la proximité.
Ouais. Et là,
donc c'est moins exigeant.
Tout à fait. Et alors là, est-ce que justement il y a des corps de métier en particulier dont vous êtes à la recherche à Sea Shepherd, je sais pas, des bénévoles,
oui, alors, des graphistes, des caméramans, des monteurs, des artistes. En fait, tout le monde peut contribuer à sa façon en étant au service de la cause et du combat. Qui sait faire de mieux, il y a des instituteurs, il y a vraiment plein de choses. Je pense que c'est les gens eux-mêmes qui sont les mieux placés finalement pour savoir comment ils peuvent contribuer le plus efficacement possible. Et après, le processus il est assez simple, pour contacter le groupe local le plus proche de chez toi, puis en général on commence à faire des stands avec le groupe pour voir à quoi ça correspond, si ça plaît ou pas, être aussi à l'aise avec les enjeux et les méthodes de Sea Shepherd, voilà, se familiariser avec tout ça et après,
c'est parti.
Il y a plein de choses à faire.
J'ai l'impression, même en regardant le site internet, justement, que vous êtes même assez prêt à ce que les gens proposent, suggèrent des choses en disant, tiens, moi, j'ai cette compétence-là que je mettrai à disposition. Et du coup, pourquoi pas essayer d'étendre ou de faire quelque chose un petit peu de particulier ou de singulier ou de différent.
Oui, les gens peuvent se faire force de proposition. Nous, on est à l'écoute de tout ça. Après... C'est possible ou pas possible. Dans ce cas-là, on explique si c'est pas possible, on explique pourquoi. Et si ça l'est, on se penche ensemble pour voir comment c'est possible de réaliser tel ou tel projet.
Oui, écoute, j'aurais encore plein de questions, mais de nouveau pour avancer, parce que je vois qu'il est déjà 4 heures passées. Est-ce que tu as encore 10 minutes?
Oui, ouais.
Puis j'essaie vraiment de faire court. Hein. J'avais
D'accord.
encore une. Désolé, mais il y aurait tellement de choses à dire encore, mais
on pourra parler déjà.
on va arriver à Mare Nostrum, mais juste encore avant, on est ici également dans une posture de discussion au moins de végétarisme, véganisme, etc. Je sais que le véganisme est également une valeur centrale au sein de Sea Shepherd. Est-ce exact?
Oui, effectivement, les bateaux de Sea Shepherd sont véganes. On fait pas de prosélytisme actif pour le véganisme, dans le sens où on n'est pas une association de bien-être animal, même si on dénonce évidemment toutes les souffrances et les atrocités qui sont forcément engendrées par le fait qu'on massacre 70 milliards d'animaux par an pour se nourrir. Hein. Mais nous, on laisse à des associations comme L214, par exemple, le message, le focus sur le bien-être animal. Nous, on est complémentaires de ça en faisant le focus sur la destruction de l'océan et de la planète. sur le fait que voilà, 7 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson, on va droit dans le mur, parce que l'industrie de la viande est aujourd'hui la première cause de déforestation, la première cause de pollution des nappes phréatiques, la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, avant tout les transports réunis, la première cause de gaspillage d'eau. Il faut 13 000 litres d'eau, si ce n'est plus, pour faire un kilo de viande de bœuf. Voilà, aujourd'hui, il y a 40% de ce qui est pêché dans l'océan qui sert à nourrir les animaux de ferme. Les cochons, par exemple, mangent plus de poissons que tous les requins du monde. Donc, on est dans un système qui marche sur la tête. Oui. Donc, pour nous, ce serait un non-sens de consommer des produits animaux.
Ouais. Ce
qui est intéressant, c'est que en fait, nos bateaux qui ne servent que des menus véganes permettent à des gens qui ne sont pas véganes dans leur vie de tous les jours, parce qu'on ne fait pas la sélection de nos équipages en fonction de ça. Hein. Mm-hmm. On prend vraiment tout le monde. Il y a aussi des omnivores qui rejoignent les missions et qui découvrent en fait l'alimentation végane en étant sur nos bateaux. D'ailleurs, c'est mon cas, parce que moi, quand j'ai rejoint Shepherd il y a 11 ans maintenant, à l'époque, bien que j'adorais les animaux et bien que j'avais une conscience écologique, je mangeais de la viande et du poisson, et c'est vraiment sur les bateaux de Shepherd que j'ai découvert l'alimentation végane et que j'ai découvert qu'il était possible de manger, de très bien manger, de se faire plaisir sans carence et sans frustration en mangeant 100% végane. Et donc, voilà, ça permet aux gens aussi, on donne un exemple d'une alternative alimentaire qui n'est ni triste ni carencée. Et pour ça, c'est assez intéressant aussi pour finalement promouvoir d'une certaine façon le véganisme.
Ah, tout à fait. Alors ici, on a un petit peu ce cas-là également et l'exemplarité, effectivement, d'autant plus à Sea Shepherd où des personnes doivent être en forme physiquement. Le fait de dire, voilà, ces personnes-là sur des bateaux véganes, eh bien, sont effectivement, on ne peut pas nier qu'ils sont actifs physiquement également. Eh bien, tout ça fait effectivement...
Vu les journées qu'on a sur le pont, ça veut dire que les carences, ce n'est pas possible.
Exactement.
On ne peut pas se permettre.
Mais ça veut dire que, d'une certaine manière, l'exemplarité fait de l'éducation populaire également. Ça veut dire que Sea Shepherd fait également de l'éducation populaire. Est-ce que les nouveaux océans, les prochains océans pourraient être des écoles ou des espaces où Sea Shepherd pourrait également intervenir pour justement expliquer, parce que finalement, ce qu'on retrouve à la mer, c'est souvent également ce que l'on produit sur Terre. Il y a une campagne contre le plastique que vous avez menée.
On fait de plus en plus de nettoyage de plage et de nettoyage en mer, et on fait de plus en plus aussi d'interventions dans les écoles. Pour sensibiliser les enfants au braconnage, à la vie marine, à la captivité aussi, parce que ça, c'est un thème qui touche directement les enfants, et à la pollution plastique, et à finalement aussi notre impact sur la planète en fonction de nos choix de consommation.
Absolument. Alors, Marine Ostrom, c'est numéro 3. Donc la campagne actuellement, c'est une collecte qui a cours jusqu'au 10 août, donc c'est la semaine prochaine en fait, où là, les personnes sont invitées à envoyer différentes denrées, à collecter différentes denrées pour justement les mettre à disposition de l'équipage.
C'est ça, oui, effectivement. On a donc le trimaran Brigitte Bardot avec deux petits bateaux qui sont mobilisés sur la campagne Marine Ostrom, donc la troisième édition cette année, qui devait normalement démarrer à Marseille, mais qui finalement démarre à Montpellier parce qu'il y a la présence d'un énorme filet fantôme qui est là depuis près d'un an. Rien n'a été fait jusqu'ici pour l'enlever dans une zone d'intérêt écologique. Du coup, on a changé les plans de départ. Donc, on est là pour quelques jours encore, parce qu'il va falloir plusieurs jours de travail pour le retirer. Et effectivement, alors demain dimanche, c'est une journée porte ouverte sur le bateau où les gens peuvent venir visiter le bateau et rencontrer l'équipage.
Là, il se trouve où le bateau ?
Comment ? Il se trouve au port de la Grande Motte.
À la Grande Motte, d'accord.
Ouais. Voilà, il y a toutes les infos sur la page Facebook de Sea Shepherd France et de Sea Shepherd Montpellier. Et effectivement, on organise une collecte de nourriture végane, hein, pour le coup, pour nourrir l'équipage pendant cette mission qui va durer 2 mois, puisque le plan après, c'est de partir sur Marseille, ensuite le Maroc et remonter sur l'Espagne. et récupérer donc le maximum de filets fantômes et de déchets, parce que sur les sessions précédentes, on a aussi retiré beaucoup de déchets plastiques et de pneus, c'est plusieurs tonnes hein, sur chaque mission.
D'accord. Alors moi là, j'ai la liste, hein, fruits, alors je vais rapidement l'énoncer, fruits et légumes frais, olives, confitures, café moulu, pain et biscottes, beurre végétaux, on entend bien beurre végétaux, ail, oignons, échalotes, conserves et bocaux de champignons, de haricots verts, haricots rouges, petits pois, pois chiches, etc., farine de blé, de riz, de pois chiches, des laits végétaux, amandes, avoine, riz, etc. Tout ça, les végans connaissent bien. Laits végétaux, les crèmes végétales également, coco, soja et riz, des huiles, olives, coco, sésame, des tomates en conserve et séchées, feuilles de nori, noix de cajou, des amandes, des noisettes, des pistaches, du tahiné, des pâtes et purées de noisettes et cacahuètes, du chocolat noir. Ça, effectivement, c'est excellent aussi, des tablettes et en poudre. Donc ça, c'est l'énoncé que moi, j'ai ici, la liste des besoins. Elle est complète comme ça, elle est exhaustive.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et puis alors, en tout cas, nous, pour la Suisse, cette collecte qui sera amenée donc le 10 août à la Motte, hein, eh bien, pour nous, je vais donner l'adresse, c'est chez Raïm Humbert Droz, 17 chemin Émilie Bressler à Tonnet. Donc voilà, et effectivement, depuis la page Facebook de Sea Shepherd Suisse romande, en tout cas, on a toutes ces informations-là également. Le Mare Nostrum 3, donc le départ, c'est enfin, le 10, c'est le 10 août, là, c'est le top départ à ce moment-là.
Alors, la campagne a commencé. Hein. À l'heure où je vous parle, l'équipe est sous l'eau en train de retirer le filet. Donc, la campagne a commencé et le bateau est là. Jusqu'à ce qu'on en ait fini avec ce filet qui est assez énorme. Donc on estime à peu près une tonne. Donc il va falloir le découper, faire ça consciencieusement pour retirer tout ce qu'il y a encore qui est piégé dessous. Donc on en a pour plusieurs jours. Au départ, on pensait 3 jours, mais après la plongée de repérage, on s'est rendu compte que ça prendrait sans doute plus de temps que ça. Donc de toute façon, on informera du départ sur les pages Facebook. On est encore là, en tout cas, au moins pour 4 ou 5 jours.
Ok. Que faut-il vous souhaiter ? Je veux dire, il y a tellement de projets, il y a tellement de campagnes. On reviendra certainement là-dessus lors d'un prochain entretien. Mais là, a priori, pour ces prochains jours, qu'est-ce qu'il vous faut impérativement ? Donc, on a compris, c'est ces denrées-là. Et puis, de nouveau, des bénévoles, des dons.
Ben voilà, des bénévoles, des dons, réfléchir à ce qu'on met dans son assiette. Ce qu'il faut nous souhaiter, ben c'est que dans un avenir proche, on puisse se reconvertir dans la plongée de loisirs, qu'on n'ait plus à faire ce qu'on fait. Malheureusement, en étant réaliste, je pense pas que ça arrive demain. Ouais. On rallie quand même de plus en plus de gens. Les bénévoles qui sont chez nous sont passionnés. Ils sont vraiment notre moteur. Les gens qui nous soutiennent financièrement nous permettent d'avoir une liberté d'action qui est inestimable. Donc voilà, on a un soutien grandissant. On a des détracteurs, forcément. On ne laisse pas indifférent. Quand on fait le genre d'action qu'on fait, on se tire des ennemis. Mais on a un soutien qui nous permet de continuer. Donc, voilà.
Tu as la sensation que les soutiens sont de plus en plus nombreux et les détracteurs de moins en moins nombreux dans les périodes un petit peu troubles, là, qu'il y a quand même une conscience qui émerge selon toi.
Ouais. Oui, je pense que vraiment quand moi je prends le recul par rapport à quand j'ai rejoint Sea Shepherd il y a 11 ans, le ratio il est quand même beaucoup plus en faveur de Sea Shepherd, mais aussi parce que comme on est plus connu, on communique davantage. Donc, toutes les légendes urbaines qui pouvaient circuler sur Sea Shepherd. Bon, voilà, moi, j'entendais des choses comme quoi Paul Watson avait tué des gens innocents pour sauver des baleines. Enfin, il y avait de tout et n'importe quoi qui pouvait se dire. On n'était pas audible, nous, parce qu'on était beaucoup moins connus. Aujourd'hui, quelqu'un qui dirait à la télé que Paul Watson est un assassin, ça passerait plus, quoi. Il y a 10 ans, c'est passé sur Canal+. Jean-Christophe Ruffin, pour ne pas le nommer, qui faisait la promotion de son livre Le Parfum d'Adam et qui a dit que la personne qui l'avait inspiré pour ce livre-là sur l'écoterrorisme, c'était Paul Watson, qui n'avait pas hésité à tuer des innocents pour sauver des baleines. Ouais. Voilà, donc là, aujourd'hui, Jean-Christophe Ruffin, il pourrait plus dire ça à la télé.
Ouais. Ça veut dire... Exactement. Mais ça veut dire qu'il reste quand même du travail à faire en termes de communication, en termes de sens, de préciser les choses, d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait.
Alors, bah oui, mais enfin, je trouve qu'il y a aussi beaucoup trop d'histoires de rumeurs et de diffamations parce qu'on va s'attirer les foudres de certaines personnes sur des problématiques bien précises. Par exemple, la pêche au requin à La Réunion. Donc là, il y a une petite clique de surfeurs, par exemple, qui déteste Sea Shepherd parce qu'on est contre la pêche au requin et qui est passée maîtresse dans la diffamation, dans le fait de répandre des rumeurs, des insultes, etc. Mais dans des contextes qui sont complètement différents. Donc les gens ne savent pas forcément que si ces personnes disent ça, c'est parce qu'en fait, elles sont pour la pêche au requin et qu'on est contre. Et donc, on a un différent sur un sujet particulier. Donc après, la question c'est, est-ce que les gens prennent pour argent comptant tout ce qui peut se raconter et se trouver sur Internet, ou est-ce qu'ils font par eux-mêmes l'effort de recherche et de réflexion pour tirer le vrai de tout ça?
Oui.
Voilà, mais c'est ce qui est bien. Enfin, moi personnellement, en tout cas, c'est la démarche que j'ai faite quand j'ai rencontré Paul Watson et que j'ai connu Sea Shepherd au début, c'est vraiment cette recherche-là de ce que les détracteurs de l'organisation peuvent avoir à dire. Et de trouver le faux, le vrai, de mes recherches est sortie une détermination encore plus grande de rejoindre l'ONG.
Très bien. Écoute, j'ai encore deux questions et puis on s'arrête là si ça te va.
Oui,
super. J'avais encore envie de te poser la question suivante. Quels sont selon toi justement les enjeux qui vous attendent à Sea Shepherd et les défis que vous allez devoir affronter finalement et qui sont pléthores autour de vous, ceux sur lesquels vous allez pointer le focus ces prochains temps, lesquels sont-ils? Est-ce que vous avez déjà justement des choses qui vous appellent vraiment de leur urgence? Typiquement, je pensais à l'eau potable dans certains pays. Enfin, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses finalement.
L'eau potable, c'est pas là, ça va être plutôt des organisations humanitaires qui vont travailler sur les questions d'eau potable. Nous, c'est vraiment essayer d'enrayer la destruction de l'océan. Les Nations Unies prédisent d'ici 2048 un effondrement de toutes les pêcheries commerciales. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est la mort de l'océan. Donc on essaye d'alerter à ce niveau-là, bon, sur le terrain en luttant contre la pêche illégale, mais aussi en faisant de la sensibilisation et de la documentation des actions de pêche qui sont, comme je le disais tout à l'heure, légales mais immorales et destructrices. Et essayer vraiment de faire passer ce message aux gens que si l'océan meurt, nous mourrons. Quand les Nations Unies prédisent un effondrement des pêcheries commerciales à 2048, c'est la mort de l'océan, c'est la fin de la civilisation humaine telle qu'on la connaît. On ne survivra pas sur cette planète avec un océan mort. Et ça, les gens ont du mal à faire le lien entre ce qui nous unit à l'océan. On vient de l'océan et si on peut vivre sur Terre, c'est grâce à l'océan. Il y a plus d'une inspiration sur deux que vous prenez, que vous devez à l'océan, et a fortiori à la vie marine. On m'a posé la question une fois, très bien, mais s'il n'y a plus de baleines, finalement, qu'est-ce que ça va changer à mon quotidien? Si on n'arrive pas à sauver les baleines, qui sont des animaux hyper charismatiques, avec un énorme capital sympathie, on n'arrivera à sauver rien d'autre dans l'océan. On ne sauvera pas les requins qui ont une réputation de mangeurs d'hommes, on ne sauvera pas les thons ou les sardines dont tout le monde se fiche éperdument, on ne sauvera pas l'océan. Et ne pas sauver l'océan, c'est ne pas nous sauver nous-mêmes, c'est ne pas sauver les générations futures. Défendre l'océan, c'est sans doute la première cause humanitaire au monde, puisque l'avenir de 7 milliards d'êtres humains en dépend et leurs descendants.
Donc voilà, il faut vraiment que les personnes puissent prendre conscience qu'il y a énormément de liens, que tout ça est évidemment lié, qu'effectivement,
quand
on parle de l'agroalimentaire par exemple, et puis la pollution de rivières par des pollutions chimiques ou quoi, et bien évidemment tout ça va se déverser dans l'océan, qu'énormément de funestes choses peuvent se passer derrière, etc. Et que donc voilà, un changement en tout cas clairement de comportement des personnes, mais également j'imagine des sociétés, qu'on peut aussi faire pression sur ces multinationales qui se comportent des fois de manière, comment dire, pour le moins irresponsable.
Bien sûr, mais là encore une fois, c'est le consommateur qui a le pouvoir, parce que pour que ça ne se vende pas, il suffit que les gens n'achètent pas. Hein, c'est Coluche qui disait ça. Donc voilà, le consommateur, il a à sa disposition un bulletin de vote, parce qu'il peut faire pression sur les gens. Et un coup près pour ces grandes entreprises. Si elles continuent à faire ce qu'elles font, c'est parce qu'au final, leurs produits continuent à trouver preneur.
Ouais. Tout à fait. Écoute, juste pour en terminer, quand les bénévoles vous rejoignent, parce que toi, tu as dit que tu es à Sea Shepherd depuis maintenant 11 ans, c'est quand même déjà une carrière. Est-ce que les bénévoles restent longtemps? Comment ça se passe? Est-ce qu'une fois qu'on est entré dans Sea Shepherd, effectivement, c'est-à-dire qu'on regarde le monde différemment et qu'on n'en part plus?
Alors, nous, au sein de Sea Shepherd, on a un dicton qui dit « J'avais une vie avant Sea Shepherd, mais je ne retrouve plus la clé. »
Donc, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après, Sea Shepherd.
Il y a un avant et un après. Alors, disons qu'il y a des gens qui nous rejoignent pour toutes sortes de raisons. Nous, on tient vraiment aux gens qui nous rejoignent pour les bonnes raisons. C'est vrai que depuis que Sea Shepherd est passé à la télé, on a aussi attiré des gens qui étaient là pour l'image. Mais en général, c'est pas eux qui restent sur le long terme. Ça le fait pas. Et il faut des gens qui sont là par passion pour la cause. Et heureusement, nos équipes sont composées en majorité de ça. Et dans ces cas-là, c'est un engagement qui dure des années. Mmh.
C'est génial. Écoute, pour en terminer vraiment complètement cette fois-ci, y aurait-il comme ça, en 11 ans justement pour toi de présence, d'engagement à Sea Shepherd, une ou deux anecdotes comme ça emblématiques qui vraiment t'ont énormément touché tout au long de ces années, que tu aurais envie de nous dire, qui nous inviterait comme ça, qui donnerait envie aux personnes de rejoindre immédiatement Sea Shepherd? Une rencontre, des mots, parce que tu as parlé effectivement de cette rencontre philosophique pour le moins, pardon, avec Paul Watson qui a effectivement, j'imagine, changé ta vie d'une certaine manière. Et tu as également parlé de la rencontre avec le véganisme. Donc ça, c'est oui, des choses quand même qui changent la vie.
Ah bah, il y a tellement de choses qui changent la vie en fait. Je crois pas qu'il y ait un autre contexte, un autre engagement dans lequel j'aurais pu rencontrer autant de gens différents. De profils, de personnalités, de nationalités différentes. Enfin, c'est un énorme melting pot, c'est une grande aventure humaine. J'ai pas envie de tout idéaliser, hein. Quand on travaille avec les êtres humains, ça reste des êtres humains, et même au sein de Sea Shepherd, il peut y avoir des clashs au niveau des personnalités, mais ça marche tant que la priorité de chacun reste la cause et que des questions d'ego sont mises au second plan et globalement on fait des rencontres incroyables avec des gens qui sont extrêmement passionnés et motivants et inspirants. Et donc voilà, après des anecdotes, j'en ai plein. Enfin, là pour le coup, ouais, c'est en évidemment mer ou à terre, ouais. Voilà, des moments d'adrénaline, des moments de peur, des moments d'euphorie, il y en a plein, avant de détente aussi, hein, mais c'est une aventure humaine.
Ouais, voilà, c'est ça. Le résumé, c'est que c'est une aventure humaine. Et puis, j'imagine qu'on a quand même là la sensation quand même d'avoir très concrètement d'infléchir des choses, non? De se dire là vraiment...
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, c'est une ONG, je trouve, qui donne les moyens d'agir. En fait, j'ai jamais eu le sentiment d'être un pion sur un échiquier ou de pas comprendre pourquoi j'étais là ou pourquoi les choses étaient comme ci et pas comme ça. C'est extrêmement motivant de pouvoir être un ouvrier du changement ou un...
Tout à fait.
On se sent utile. Pour moi, Sea Shepherd, c'est un outil extrêmement efficace pour défendre l'océan. C'est, à mon sens, sans doute l'outil le plus efficace, même s'il y en a d'autres. En tout cas, moi, c'est celui qui me correspond le plus. Et voilà, et ça, c'est extrêmement satisfaisant.
J'imagine.
C'est ma meilleure récompense.
C'est génial. Y aurait-il, si on en appelait à tes souhaits, comme ça, même peut-être utopique, quelque chose manquerait-il à Sea Shepherd dont tu rêverais de pouvoir produire les effets ou produire l'existence, disons?
Non, il n'y a pas quelque chose qui sorte du lot comme ça, si ce n'est peut-être d'un coup de baguette magique. On arrivait à faire prendre conscience aux gens que leur avenir est lié à l'océan et que qu'il faut vraiment qu'ils remettent en question leur mode de vie avant qu'il soit trop tard, et que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine pour l'océan lui-même, pour la vie marine, pour nous-mêmes, pour nos enfants, que c'est pas une question secondaire, c'est une question primordiale et c'est une urgence, et que on a tous à y gagner à le faire.
Ouais.
Donc voilà.
On pourrait dire, comme notion centrale, s'il fallait en citer qu'une, ce serait celle de responsabilité.
C'est ça, responsabiliser les gens. Les gens, effectivement, c'est le terme clé. Les gens se sentent responsables de ce qu'ils font et qu'ils prennent conscience de l'impact de leurs choix et de leurs actes sur l'océan et donc sur notre avenir à tous.
Très bien. Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France et Suisse Romande, je te remercie énormément d'avoir pris tout ce temps pour nous. J'espère qu'on reviendra là-dessus parce qu'il y aurait encore, pour une question que je t'ai posée, il y en a au moins 3-4 que j'ai mis de côté. Alors je vais peut-être encore juste rappeler que voilà, les sites internet www.seashepherd.fr, également pour le site Suisse Romande, j'ai www.fr.seashepherd.ch et puis la page Facebook, je ne me trompe pas.
C'est ça. Ouais.
Voilà.
Et puis nous... en France officielle et Sea Shepherd Switzerland.
Exactement. Et puis nous, évidemment, on mettra ça en lien sur le site de la radio. D'ailleurs, vous n'avez pas de radio à Sea Shepherd encore ?
Non, alors c'est un des projets qui sont dans les tiroirs, comme des dizaines d'autres. Mais effectivement, on y pense.
Ah, très bien. Bah, en tout cas, en attendant, nous, on veut bien vous relayer avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Je te remercie.
Et bien, c'est sympa.
Avec beaucoup de plaisir. Je te remercie beaucoup et puis on se retrouve, j'espère, bientôt. Et courage pour la suite des opérations.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci. Ciao.